Eh ben, merci Kevin, merci le MIG et bonsoir à toutes et à tous. Donc ce soir, on va vous présenter un travail qu'on a appelé le champ des possibles, une enquête collective à Sevran. Donc en fait, le champ des possibles, c'est à la fois une enquête collective, comme le dit son sous-titre. C'est un ouvrage qui est ici, que je pourrais faire aussi tourner durant la présentation. Et c'est depuis peu, comme l'a dit Kevin, un site web. Donc là, l'idée ce soir, c'était de vous présenter à la fois cette recherche, qui est une recherche collective, qui a pris la forme d'un livre grâce à une écriture collaborative et qui, après, a pris la forme aussi d'un site internet grâce à un processus éditorial et de travail un peu spécifique qu'on pourra aussi vous présenter pour ceux et celles que ça intéresse, même si on ne pourra pas rentrer autant dans le détail que l'on souhaitait parce que Sarah Garcin, qui est la développeuse et graphiste de la bande, est souffrante ce soir, mais elle est sur le chat pour corriger toutes les bêtises techniques que nous pourrions dire à un moment ou à un autre. Mais on a Robin qui est quand même assez fort aussi en code, et, etc. là-dessus. Donc peut-être pour vous introduire ce projet, donc en fait Thomas, Robin et moi, on travaille au Media Lab de Sciences Po, qui est un laboratoire de recherche interdisciplinaire, pas très loin d'ici, qui est basé donc à Sciences Po. Et en fait, on a travaillé ensemble autour de la question de la cartographie de controverse, qui est une méthode en fait d'enquête qui est assez mobilisée en fait à Sciences Po, aussi en école d'ingénieurs en fait pour la formation des étudiants et des étudiantes, qui a cet avantage voilà de tenir ensemble les sciences, les techniques et la société, de montrer, de poser un regard socio-technique sur le monde. Et donc on a travaillé voilà pour un programme de recherche autour de la cartographie controverse. On a aussi fait cet ouvrage avec aussi Sarah Garcin au graphisme et au développement. Et on a travaillé donc à mobiliser cette méthode, en fait, à la faire sortir de l'université pour la mettre entre des mains de citoyens au cours d'ateliers notamment, en se disant que c'était intéressant en fait pour enquêter sur des controverses en fait en cours dans le monde et notamment des controverses qui peuvent être écologiques ou territorial, on voulait un peu partager cet outil, en fait, cette méthode de travail avec d'autres personnes. Et en fait, c'est un peu comme ça, de fil en aiguille, au fil d'atelier, que nous sommes arrivés à Sevran, qui est donc à une ville à 18 km de Paris, en Seine-Saint-Denis. On a travaillé là-bas avec le Théâtre de la Poudrerie, qui est un théâtre qui fait des spectacles à domicile, qui n'a pas de lieu là-bas. Et on a commencé d'abord un atelier autour des plantes invasives, donc c'était un tout autre sujet. Mais en fait, rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait une controverse très actuelle à l'époque où on arrivait à Sevran, qui était un projet d'aménagement d'une piscine avec de surf sur un site, sur une ZAC, donc une zone d'aménagement concerté de 55 hectares, et qui en fait était l'un des 55 sites à aménager dans le cadre de la métropole du Grand Paris et d'un grand appel à projet dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui s'appelle « Inventons la métropole du Grand Paris », qui est un peu sur le modèle aussi de ce qui a été « Inventons Paris », c'est ça, hein, c'était « Inventons la ville de Paris ». Réinventer Paris, ouais. Réinventer Paris, après il y a eu Inventons la métropole du Grand Paris. Et donc là, l'idée, c'est que pour construire cette métropole, elle se construit aussi en densifiant et en prolongeant les lignes de transport avec le Grand Paris Express, et qu'à chaque nouvelle station, en fait, construite autour, on aménage en fait avec un projet marquant et aussi des nouveaux logements pour densifier dans cette logique un peu de métropolisation, de densifier en fait la ville, d'étendre la ville et de proposer de plus en plus de services. Et donc, on est arrivé donc à Sevran, on a entendu parler de cette controverse qui tout de suite a fait aussi un petit peu de bruit parce que en fait Sevran, on est quand même dans, là on était sur cette zone d'aménagement concertée, en fait c'est surtout un champ, en fait quand on y va, un champ de 32 hectares, et donc tout de suite cette piscine avec de surf, elle apparaît comme à la fois une aberration sociale, une aberration écologique, parce que pour faire cette vague de 70 km/h qu'on va pouvoir surfer, il faut construire plusieurs bassins en béton, donc artificialiser le sol sur une terre qui n'est pas non plus formidable, mais qui est quand même cultivée depuis très longtemps, mais on y reviendra après. Et aussi, en fait, dans les vidéos un peu des promoteurs, on se rend rapidement compte que c'est aussi quelque chose qui est pensé parce qu'on se rend à proximité de l'aéroport de Roissy, parce qu'on ne va plus être très loin de Châtelet, que ça coûte 50 euros de l'heure, en fait, d'aller surfer cette vague à 70 km/h. Et donc, ce n'est pas du tout, en fait, pour les habitants de Sevran. Mais pour autant, en fait, avec ce projet, viennent aussi d'autres équipements qui paraissent plus intéressants, et notamment aux maires et aux élus locaux, comme un corridor écologique, on pourra revenir dessus, d'autres aménagements aussi paysagers qui peuvent être intéressants, en fait, pour ouvrir un petit peu la ville, et notamment cette partie de la ville. Et donc, en fait, le maire toujours actuel, hein, mais en 2020, Stéphane Blanchet, qui est un maire écologiste, décide de lancer une concertation citoyenne sur cette question de la piscine à vague de surf, en invitant autour de la table à la fois des élus, des habitants, Grand Paris Aménagement, qui est donc l'aménageur, Link City Île-de-France, qui est le promoteur, qui est une filiale de Bouygues, et de mettre un peu tout le monde autour de la table sur ce qu'on appelle une concertation citoyenne, donc pendant 2 mois, discuter un peu de ce projet. Et chose extrêmement rare, en fait, c'est qu'au bout des 2 mois, le projet de piscine à vague de surf est abandonné, en fait, d'un commun accord. Ce qui est vraiment assez rare hein, dans ce type de dispositif un peu de démocratie participative, qu'il y a un abandon. Et même, en fait, une association environnementale que vous connaissez sûrement, Environnement 93, a retiré le recours administratif qu'elle avait déposé en fait, auparavant contre ce projet. Et donc, là, nous, on était un peu arrivés là avec l'idée d'enquêter peut-être sur cette controverse, mais qui presque était un peu trop... presque un peu trop facile, en tout cas dans le sens un peu trop caricatural, parce qu'on voyait bien en fait comment ça allait positionner les gens les uns contre les autres. Mais en fait, en tout cas, voilà, quand on démarre notre enquête, c'est juste après l'abandon de cette piscine à vagues de surf, donc en complicité avec le théâtre de la Poudrerie. Et donc, en fait, ce qu'on se dit, c'est que ce terrain de 32 hectares, en fait, déjà, en fait, pourquoi est-ce qu'en fait, il y a encore un champ qui est à 18 km de Paris, qui a l'air d'être à moitié en jachère, il était cultivé il y a encore peu de temps, mais en fait, quelle est un petit peu son histoire? Et on se dit, on veut projeter des aménagements qui paraissent assez étonnants sur cet endroit, mais en fait, si on prenait le temps de le décrire et de dire un petit peu ce qu'il est, en y allant, et donc c'est un peu le début d'une enquête qu'on a menée en fait pendant 2 ans avec donc Thomas et Robin. On a constitué un groupe de co-enquêteurs et co-enquêtrices habitants de Sevran. On a invité à la fois des artistes et des chercheurs à nous accompagner, parce que nous, on n'est pas spécialistes d'aménagement, d'aménagement urbain, etc. Donc, en fait, pour nous équiper du mieux possible, en fait, pour pouvoir étudier, en gros, ce champ sous toutes les coutures. Et donc pour ça, on a j'irai rapidement sur la méthodologie pour rentrer plus dans les contenus ensuite. Mais l'idée, c'est qu'on a mené une série d'ateliers où on a étudié cet endroit en fait à la fois depuis des documents, mais aussi en s'y rendant très régulièrement. Et qu'ensuite, en fait, on a rassemblé le matériau, en tout cas des ateliers, dans un ouvrage qui s'appelle donc Le Champ des possibles, une enquête collective à Sevran. Et ce livre, on a décidé de le construire selon 6 chapitres. Donc l'idée, c'est qu'on positionne presque un peu cet ouvrage comme une sorte d'anti-étude d'impact. L'étude d'impact, c'est ce qu'on fait qu'en fait, on va présenter... on envisage un projet d'aménagement, on étudie les potentiels impacts de ce futur projet en fait, sur le territoire où il va être implanté. Et donc nous, on fait une anti-étude d'impact étant donné qu'on regarde le lieu pour ce qu'il est, sans justement ces projets d'aménagement qui doivent le transformer. Et donc l'idée, c'est que l'ouvrage est un peu comme une forme de portrait mosaïque de cet endroit. Donc on a fait un travail qu'on a aussi qualifié de micro-ethnographie, hein, où, étant donné qu'on a étudié, on a passé 2 ans sur un tout petit bout de territoire, mais à le regarder un peu de différentes manières. Et donc les 6 chapitres sont aussi des propositions de regarder en fait cet endroit d'une certaine manière, en mobilisant certains concepts et certaines disciplines. Et donc les 6 chapitres, je vais juste les énumérer avant qu'on rentre dans le détail. Mais donc, c'est de voir ce champ qu'on appelle les 32 hectares ou la plaine Monceleux. C'est d'abord se dire que c'est un vide urbain, mais c'est aussi ce qu'on appelait une terre de projet. C'est aussi une zone à planifier, notamment dans le cadre de documents administratifs. C'est un champ de banlieue, parce qu'en fait, on cultive ce bout de territoire depuis très longtemps. C'est aussi une friche dans la métropole et aussi un commun à habiter. Et donc voilà, là l'idée c'est qu'on vous présente un peu ces différents chapitres avant de revenir un peu sur le processus de travail, d'enquête et de recherche qui a été le nôtre. Et peut-être pour commencer, je vais juste amorcer le chapitre sur le vide urbain. Mais donc l'idée, en fait, on commence par ce chapitre parce que nous, on a d'abord commencé, avant même d'aller sur le site, en fait, on a regardé une carte de Sevran et voilà, en fait, là, on a vraiment une forme blanche, une sorte de triangle nu qui se détache de la carte, donc quelque chose voilà, qui est complètement indéfini, indéterminé. Et qui, enfin voilà, qui n'a pas de caractéristiques, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et donc, cet endroit va souvent être nommé un vide urbain. Et donc, c'est à la fois le produit d'une histoire de l'urbanisation et d'une histoire de la ville. Mais le vide urbain, c'est aussi un concept qui va être souvent utilisé par les aménageurs, notamment des villes, parce qu'en fait, qui dit vide, en fait, dit en gros une page blanche à écrire. Donc, c'est bien commun, en fait, pour pouvoir aussi projeter ou promouvoir des projets en fait d'aménagement. Donc ce premier chapitre parle un petit peu de cette qualité de cette question du vide urbain. Les vides urbains étant souvent des formes de délaissés dans la ville qui sont le fruit en fait qui sont le fruit de l'urbanisation plus ou moins chaotique, plus ou moins bien planifiée. Et là en fait on va se rendre compte très rapidement qu'on est tout au nord de Sevran, donc à une limite administrative avec Villepinte, entre un quartier qui est celui qui est celui de Pont-Blanc, celui de Pont-Blanc qui est ici, donc c'est un quartier des grands ensembles des années 70, et le quartier des Sablons à l'est, qui est un quartier plutôt des années 80, un peu plus récent. Mais là, je vais peut-être pas trop empiéter sur la partie de Thomas, peut-être je te laisse continuer. Enfin, donc là, l'idée, voilà, c'était de se dire, on peut, donc quand on le regarde d'abord depuis une carte, c'est clairement un vide, c'est bien commun en fait pour des aménageurs urbains, mais en fait, le vide sur une carte, est-ce que c'est, ça veut dire quoi un vide dans la réalité? Le vide, il a forcément une certaine physicalité, et allons voir cette physicalité, et regardons aussi l'histoire de la ville pour comprendre comment elle a été produite.
Et ce qui est intéressant, c'est que vide urbain, ça ne veut pas juste dire qu'il n'y a pas d'immeubles, d'habitation, parce qu'on voit que quand il y a une forêt, il y a ici la poudrerie, enfin, du coup, il y a tout un bois protégé qui est là, il y a une friche qui correspond, la friche Kodak, qui correspond aux anciennes usines Kodak Pâté, qui étaient dans cette ville et qui explique aussi l'histoire du peuplement de Sevran autour de trois grandes usines, finalement. Une usine qui s'appelle Westinghouse, qui faisait des freins ferroviaires. Kodak, pour la pellicule, notamment cinématographique, pas que photographique. Et la poudrerie, la forêt de la poudrerie s'appelle comme ça parce qu'il y avait la poudrerie nationale. Et donc, il y avait des tests d'artillerie, d'armement. Ça expliquait aussi qu'il y avait une grande zone non bâtie juste à côté. Parce que c'était dangereux. Parce que quand même, quand il y avait des explosifs, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, quand on a des explosifs, il faut aussi faire attention, évidemment. Il y avait l'interdiction de bâtir autour. Alors voilà, donc l'idée, c'est un peu d'enquêter. Je vais vous présenter les deux premiers chapitres. C'est un peu cette idée de résoudre l'énigme de mais pourquoi on a encore un vide aussi grand? Parce que certes, on n'est pas en plein cœur de Paris, en termes de prix du mètre carré, mais quand même, on est toujours, et on le voit bien, que ce soit sur des cartes ou que ce soit par Google Maps, quand on regarde la densité du bâti, on est toujours dans le fait que chaque centimètre carré compte, et chaque centimètre carré est occupé, et donc finalement, voilà, y a un peu cette énigme à résoudre. Et l'énigme, finalement, c'est tout le paradoxe du vide et du plein, c'est que quand on part dans le passé, je disais au début, évidemment, on est au début de ce qu'on appelait la plaine de France. J'y reviendrai vite fait quand on parlera d'agriculture plus tard, mais c'était des grands champs céréaliers. Donc, y avait Paris, le centre de Paris. Autour, il y avait plutôt des zones maraîchères pour nourrir en légumes, notamment la capitale. Et puis là, on était un peu plus loin, on était sur les grandes plaines céréalières. Donc, ça commençait à être les grands espaces un peu loin de la capitale. Et ce qu'il a fallu raconter pour comprendre le vide, c'est en fait l'histoire du mitage urbain, c'est-à-dire au fur et à mesure la ville qui grignote les espaces agricoles, qui emplit de plus en plus. Et pour ça, on a regardé un petit peu dans le passé, oui, peut-être que se montraient les images satellites. Ça, je pense, ça date des années 1920 ou 1930. On est sur un petit bout de Sevran. Peut-être qu'on peut essayer de regarder. Voilà, si on les fait au fur et à mesure, on peut essayer de montrer. Donc au fur et à mesure, on voit la ville qui grignote, jusqu'à laisser la forme qu'on peut reconnaître maintenant au-dessus. Ce que je trouve assez intéressant en remontant sur des images satellites, du coup, c'est que quand on remonte dans les années 20-30, en fait, dans les champs, on peut repérer une forme assez spécifique qui est le quartier du Pont Blanc. Donc c'était un premier lotissement qui s'est créé puisque il y a eu une première explosion urbaine en quelque sorte. Sevran, c'est un bourg de 200-300 habitants depuis des siècles. On reste à environ là. Et on est dans les années 1910-1920. On va très vite passer d'un millier d'habitants à 10 000 habitants. Une multiplication par 10 en une décennie, c'est quand même assez gigantesque. Et donc, du coup, il faut construire de nouveaux lotissements. Et c'est ce qu'on voit sur ces cartes. On commence à... Les formes qui se distinguent quand on regarde d'en haut, du coup, c'est la forme du bâti, de l'urbanisme. Petit à petit, donc, c'est toute une histoire qui est une histoire assez classique de la banlieue parisienne, du coup, de l'après-guerre, où on va avoir les grands programmes immobiliers. Sur Sevran et Villepinte, il va y avoir ce qu'on appelle une ZUP, une zone à urbaniser en priorité. Donc c'est dans les grands programmes des années 60-70 où l'idée était de dire on veut éviter que les villes souffrent trop de promoteurs immobiliers qui ont des projets un peu n'importe comment, mais après c'est à la ville de supporter le coût des infrastructures. Et donc on veut que se fasse de façon organisée, planifiée. Donc il y avait ce projet à Sevran. Une zone urbaine dont la réalisation n'a pas été tout à fait ce qui... Si je peux mettre sur ce... hop là. Voilà, donc là, on voit un projet d'architecte, on parlait tout à l'heure de projet d'architecte, et donc là, c'est un plan d'ensemble de ce que devrait être la construction idéale d'une villa. Et ce qui est intéressant sur cette carte, c'est qu'on voit un peu mal, mais on a des traces au feutre, qui sont en fait les routes qui ont finalement été construites et qui rendent le projet complètement caduque. Et on voit que en fait, on a mis des routes en plein milieu de ce qui était censé être les immeubles, parce que petit à petit, ça s'est fait de façon tout à fait anarchique. Un peu chaque projet s'est lancé dans son coin. Alors, ce plan, grosso modo, c'est dans les années 60.
67,
je crois. 67, c'était 67, c'est ça. Mais il n'est jamais mis en place. Et donc... finalement, tout se fait de façon désordonnée.
Alors, 70.
Voilà, 70. Donc, ce qui est intéressant, c'est de ce vide, finalement, c'est... Enfin, ce qui est étonnant, enfin, c'est juste le plein. Le vide, c'est ce que ce champ a toujours été. Donc, maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est pourquoi il ne sait pas, pourquoi il a été gardé. Et justement, ce qui est intéressant, c'est pour comprendre ça, c'est de revenir sur ces projets. Puisque nous, on est venu sur place, Clémence nous a bien dit, à cause d'un nouveau projet immobilier. Un projet immobilier, aussi un projet qui était un marketing territorial avec une piscine à vagues de surf. Mais en réalité, si ce champ est vide aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il y a eu des tonnes de projets qui ont été imaginés et qui n'ont jamais été réalisés. Donc c'est ça qui est quand même intéressant, c'est de se dire que finalement, le vide lui-même est un résultat de... Enfin, le fait que les gens veulent à tout prix projeter de nouvelles choses... C'est lié au fait que dans le passé, des gens y ont projeté des choses et que ces projets n'ont pas vu le jour. Donc le premier projet dont je parlais, c'était cette zone urbaine à planifier. C'était une façon bien pensée d'avoir un plan d'ensemble et voilà, des immeubles bien organisés. Le grand projet qui explique finalement le fait que ce territoire, ce champ ait été maintenu vierge de tout immeuble, c'est un projet de mobilité, puisqu'il s'agit de... un projet d'autoroute qui s'appelait d'abord, une autoroute interurbaine de Seine-et-Oise. C'était encore la Seine-et-Oise et pas la Seine-Saint-Denis dans cette partie-là du territoire. Et ensuite est venu un projet qui s'appelait l'A87. Donc on voit l'A86 aujourd'hui qui fait un espèce de second périphérique un peu plus éloigné. Il avait l'idée d'avoir encore un axe qui évite, enfin, il y a plein d'autoroutes radiales autour de Paris, de façon très centralisée. Il y avait l'idée d'avoir finalement voilà, des espèces de périphériques concentriques qui permettent de circuler d'une zone à l'autre. Et donc là, on voit le projet d'un nœud d'autoroute. On reconnaît, si vous regardez en bas de la... Alors, pas pour les gens qui sont en ligne, évidemment, mais pour les gens qui sont ici dans la salle, on reconnaît le quartier du Pont Blanc et donc cette infrastructure qui explique le fait que juste au-dessus, bah, du coup, on a l'État a acheté ce terrain dans l'optique de... puisque déjà, pour construire une autoroute, il faudrait aller en sous-sol, ça coûte déjà très cher, ou bah, chasser quelques personnes. On voit que là, le quartier de Pont-Blanc, il y a une petite partie de gens qui auraient dû être délogés. Mais pour éviter ça, sur la partie qui n'est pas construite, surtout, l'État achète. Alors, il y a eu ce projet d'A87, il y a eu des habitants qui se sont opposés à ce projet, parce que ça passait beaucoup trop près des habitations. Il y a eu d'autres projets qui ont suivi, un autre projet de route qui s'appelle la route des Trois Forêts. Et puis, ce champ étant vide, il y a eu l'idée de dire, ah bah tiens, est-ce qu'on ne ferait pas un méga multiplex de cinéma ? Donc, c'est un autre projet. Ça, c'est un autre projet. C'est le projet d'un stade de rugby pour la Fédération française de rugby qui voulait un grand stade de 80 000 places en région parisienne. Donc, il y a eu l'idée d'installer ce stade-là. C'est allé assez loin. Il y avait un projet qui était développé, mais finalement, le lieu n'a pas été retenu. Il y a eu un stade de foot. L'idée que ce soit un Clairefontaine en Seine-Saint-Denis, un projet d'entraînement... de foot. Et donc c'était l'idée de terre de projet, ça vient pas de nous en fait, et à partir des années 2000 et 2010 en particulier, il y a eu l'idée de nommer ça une terre d'avenir, avec des noms successifs. On dit, ah, la vraie idée c'est que cette terre d'avenir, il fallait que Sevran devienne une terre de destination. Pendant longtemps, Sevran a été, et toujours en vrai, quand même aussi ce qu'on appelle une cité dortoir, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y avait des usines, comme je le disais, donc les gens pouvaient travailler sur place, mais c'était qu'une petite partie de la population, et puis de plus en plus, les gens en fait prenaient le RER qui a été construit pour aller travailler à Paris et juste dormir à Sevran. Donc l'idée c'était qu'on puisse se déplacer pour avoir quelque chose à faire à Sevran, pour y aller. Donc avec ces différents projets successifs, on a parlé de terre de sport, terre d'eau et de culture. Et donc après avoir tenté la culture avec le cinéma, le sport, il y a eu l'idée de transformer cette zone en une terre d'eau. Alors historiquement, en lien avec le programme Cataphile, cette fois-ci, il y avait quelque chose dans le sous-sol, mais il s'agit d'un ancien cours d'eau qui s'appelle la Morée, qui a été enfoui. Donc il y a une petite dimension hydrologique. On est dans les anciens bassins de la Marne, si je ne me trompe pas. C'est quand on remonte à des temps antédiluviens. Hein. Par contre, là, c'est sûrement très, 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 très loin, évidemment, dans les temps géologiques. Ce qu'il y avait, c'était un petit cours d'eau qui a été enterré, qui s'appelle la Morée. Il y a eu l'idée de d'abord en faire une espèce de lac dans une continuité écologique, et puis de le transformer en un projet rentable et qui pourrait donner une image à Sevran pour se démarquer des autres villes dans le Grand Paris. Donc c'est dans ce contexte que finalement ce projet avec de surf, c'est un énième projet, mais ce qui est intéressant, c'est que personne ne raconte jamais tous ces projets échoués. On fait comme si ça n'a... Effectivement, on parle un peu de projets fantômes, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas existé, mais en même temps, ils laissent des traces quand même. C'est ça qui nous intéresse. Et notamment, ce champ, c'est une trace de ces projets non réalisés. Et on a voulu continuer à enquêter là-dessus, notamment en regardant les traces matérielles. Et les traces matérielles, ce sont les cartes, ce sont les plans, ce sont les plans de zone dont on va nous parler, Robin.
Et peut-être si je peux juste faire une mini aparté, on vous a montré un dessin là en noir et blanc. Et ça, en fait, pour vous dire, on va vous en passer d'autres, mais ça, c'est des dessins qui ont été réalisés par Sarah Garcin. Et en fait, elle a fait un dessin pour chacun des chapitres, qui est aussi une manière graphique et sensible de venir illustrer aussi la proposition de chacun des chapitres. Donc c'est juste pour vous dire qui est à l'origine de ces images qu'on vous montre et qu'on vous montrera là. Au cours de la conférence sur les différents slides.
Et donc, comme on le disait précédemment, donc le chapitre suivant, il continue en fait cette enquête à propos de ce vide, en essayant donc de comprendre quelle matérialité finalement faisait que ce vide était resté vide, mais aussi qu'est-ce qui justifiait pour une partie des acteurs, notamment les porteurs du projet de piscine avec de surf, de le considérer comme un vide et d'y projeter des aménagements qui auraient eu pour conséquence de complètement transformer le territoire en question. Et en ce sens, donc, le troisième chapitre de l'ouvrage, il s'appelle « Une zone à planifier », il se concentre sur le document juridique, urbanistique et politique qui ont en fait encadré ces différents, ou dialoguer, disons, avec ces différents projets qui ont été montrés précédemment. Juste avant le projet de piscine avec de surf en 2015, à l'occasion notamment de la révision d'un document qui s'appelle le plan local d'urbanisme de la ville de Sevran, qui est un document politique et administratif matérialise la politique d'aménagement d'une commune et sert notamment concrètement à accepter ou refuser des permis de construire. Donc on s'est demandé en fait comment est-ce que ces documents de planification urbanistique, le PLU mais aussi d'autres documents qui correspondent à d'autres échelles de planification, ont pour ainsi dire occupé ou hanté cette plaine pour la garder vide. Comment est-ce qu'aussi ils ont appréhendé ce qu'il y avait sur cette plaine, puisqu'en fait on y reviendra par la suite, mais quand on va dessus, c'est pas du tout un vide. Il y a plein de choses, plein d'êtres qui y habitent. Comment est-ce qu'ils les ont appréhendés? Et puis par ailleurs, qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? Qu'est-ce que ces plans n'ont pas vu? Et l'hypothèse finalement qu'on suit un petit peu dans le fil de cette première partie du livre, c'est que les divers plans d'aménagement, même ceux qui sont partiellement réalisés ou pas réalisés du tout, ont agi et agissent encore aujourd'hui sur la plaine. Via l'ensemble de pratiques politiques, administratives ou habitantes. Donc du coup, on parle de plan dans trois sens. On peut donner plusieurs sens à ce terme, mais on parle de plan dans le sens des objectifs à atteindre, des fameux projets qui avaient été visés par le passé, mais aussi des différentes procédures d'aménagement urbain qui relèvent de l'activité de planification. Et enfin, très matériellement, des plans au sens de cartes planificatrices. Et en fait, donc, on s'est intéressé à la manière dont ces différents plans avaient agi sur cette plaine, à la fois dans la relation à la spatialité du territoire, mais aussi à sa temporalité, et enfin par rapport aux différents enjeux de coordination politique et administrative qui sont contenus en fait dans les discussions sur l'avenir de cette plaine. L'objet de cette partie de l'ouvrage, c'est principalement des études documentaires qu'on a réalisées en partie, notamment avec des acteurs de terrain, notamment un conseiller municipal de la ville de Sevran, qui a été un des co-enquêteurs sur lesquels on reparlera par la suite. Et on s'est intéressé à ces différents documents d'urbanisme. Donc ces documents et ces plans, voici trois d'entre eux à l'écran pour les personnes qui sont présentes dans la salle. Qui correspondent à différentes échelles. Le premier et le deuxième qui correspondent à des échelles régionales, donc respectivement le schéma régional de cohérence écologique en haut, qui est un document plutôt de planification à vocation écologique, et au centre, le document qui est tiré du schéma directeur de la région Île-de-France. Et enfin, un document plutôt à l'échelle des communes, pour le dernier. Qui correspond à un groupement de communes dont fait partie Sevran et qui portait plutôt sur la planification des qualités paysagères de cette zone. Donc on analyse ces documents dans l'ouvrage, mais en fait ce qu'on essaye principalement de voir, c'est comment est-ce que les aménagements de la ville existent souvent graphiquement avant d'exister dans l'espace physique, en organisant l'espace comme une figure et en projetant en fait un certain ordre, un assujettissement à une rationalité graphique sur le monde à travers ce travail de cartographie qui désavoue le regard ordinaire d'une personne qui vient sur les lieux et qui déplace un peu le contrat de confiance de l'observation vers une vision qui est médiée par les objets graphiques que sont les cartes. Et dans ce cadre, ce qu'on essaye de montrer, c'est comment est-ce qu'il y a différents choix de représentation qui se font dans ce travail de planification, à la fois de représentation graphique, le choix par exemple de représenter l'espace comme une trame avec ce que vous voyez au centre, ou le choix de le problématiser plutôt comme un ensemble de réservoirs de biodiversité reliés entre eux par des couloirs de biodiversité, ce qui correspond à l'image du dessus, mais aussi de représentation politique, puisque ces PLU sont écrits par des experts, par des représentants politiques. Il y a toujours la question de la représentation des entités qui tiennent à cet espace-là dans ce travail de représentation. Donc on s'est intéressé à cet aspect-là, mais on s'est aussi intéressé, à travers notamment l'étude du PLU, à l'emprise qu'ont ces plans, ces activités de planification et de cartographie sur la temporalité des lieux. En ce sens, on se rapporte notamment à des ouvrages comme celui de Frédéric Reber et Martin Giraudeau, le projet d'une histoire politique, dans lequel on trouve un article de Nicolas Verdier sur le rôle de la carte planificatrice, notamment dans le cadre de projets immobiliers, dans l'établissement d'une forme de bilocation temporelle. Pour le dire très simplement, une carte, elle nous permet à la fois d'être prêt, de faire un constat qui relève du présent et de représenter dans une même représentation des choses qui relèvent du futur, qui relèvent de la projection et qui se voient, pour ainsi dire, normalisées par leur coprésence avec des éléments qui relèvent du constat sur la carte. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a épluché les dominations et les différentes représentations cartographiques de cette plaine pour montrer comment est-ce qu'il y avait une série de projections qui étaient faites pour se convaincre que cette ville était, que cette zone était vide, qu'elle avait aucun intérêt écologique, par exemple, qu'elle avait également aucun intérêt d'un point de vue agricole, et que c'était une zone à planifier, une espèce de tabula rasa, qui était rendue d'autant plus visible par toutes ces cartes dont on vous a montré juste une partie, qui la montre comme un blanc dans la carte.
On va dire dans le tissu de la ville.
Voilà. Et pour terminer, ce qu'on s'est aussi rendu compte en analysant ces documents, c'est que finalement, ces plans qui occupent le vide agissent également tout autant comme le moyen de projeter un aménagement futur, en l'occurrence sur cette plaine à Sevran, que comme l'expression et le moyen de résolution de multiples problématiques de coordination entre différents acteurs, permettant à des instances de s'articuler ou de participer d'un jeu politique à travers les projections faites sur les lieux. En ce sens, la révision du PLU de Sevran en 2015, elle s'inscrit dans le cadre d'une mise en conformité des différents échelons de planification de l'aménagement de la métropole, suite à la promulgation de la loi Grand Paris, en partie de la hiérarchie des normes, et notamment d'une bataille politique entre le niveau national, qui est à l'époque Nicolas Sarkozy, et le niveau régional, qui est donc un conseiller régional socialiste. Et donc elle implique une attention aux enjeux sevranais, mais également aussi à des enjeux de mise en cohérence et de mise en conformité à des échelles plus étendues, la métropole, la région et l'État. Voilà, donc les plans, ce qu'on essaie de montrer du coup par le menu, c'est que les plans occupent et hantent ce vide de la plaine, tout autant par ceux qui y projettent que par la manière dont ils enrôlent cette plaine dans un ensemble de pratiques documentaires distribuées. Et en ce sens, ils investissent ce vide-là, cette zone vide, tout autant pour résoudre des problèmes de gouvernement que pour s'occuper de la transformation effective du milieu de vie, et notamment du milieu de vie pour les sevranais.
Et donc parmi les aspects qui sont gommés par ces cartes, Robin l'a cité, et notamment l'aspect agricole, parce que le titre, c'est quand même, c'est-à-dire le champ des possibles, parce que c'est quand même un champ, et il se trouve que c'est un champ qui a été cultivé d'aussi loin qu'on peut retrouver des documents qui parlent de cet endroit, de la ferme Monceleux, c'était un champ qui était lié à l'abbaye Saint-Martin-des-Champs à Paris, vers l'an 1000, on arrive à trouver trace finalement du fait que ça a toujours été, enfin pas toujours, mais en tout cas depuis ce temps-là, a été cultivé, et au moins jusqu'à 2019, puisque quand ça appartenait à l'État, les terres étaient en fermage, et donc il y avait des agriculteurs qui venaient de Seine-et-Marne, qui cultivaient ce champ. On viendra cultiver ce champ en exploitation avec des produits phytosanitaires. Oui, c'était pas intéressant aussi de se dire que ça, c'est un champ agricole, mais il n'a pas non plus, on veut pas non plus en faire quelque chose d'exceptionnel. De ce champ. C'est un champ assez ordinaire, finalement, qui a été cultivé pendant très longtemps. On voit ici les premiers, l'hôpital au fond, des premiers immeubles, et du coup, une exploitation agricole. Et on a trace dans le souvenir des gens, parce que l'enquête qu'on a menée aussi, c'était l'idée que les gens pouvaient aussi raconter les souvenirs de « je me rappelle le champ de coquelicots, je me rappelle les blés, je me rappelle le moment où c'était du maïs ». Le moment où on essayait de chaparder du maïs, le moment où on pouvait acheter à l'agriculteur du coin des œufs, machin. Et donc, du coup, ça, alors c'est à la fois une nostalgie qui relève un peu du « c'était mieux avant », donc on essaie de faire attention aussi à ce type de discours, mais en même temps, c'était intéressant parce qu'il y a eu un moment où Sevran était vraiment dans ce qu'on appelait, d'où ce titre « Un champ de banlieue », il y a un ouvrage, un géographe qui s'appelle Philippe Honneau, qui a écrit un livre qui s'appelait dans les années 50 « La vie rurale de banlieue », quelque chose qui paraît assez paradoxal finalement, mais il racontait cette coexistence finalement de grands ensembles et d'activités agricoles qui a quand même caractérisé Sevran pendant un bon moment. Je vais passer là-dessus, mais le fait qu'il y ait des grandes parcelles à cet endroit-là, ça a aussi une incidence sur les projets immobiliers qui ont pu être des projets un peu plus gros. La propriété agricole elle-même, elle a eu un impact. Par exemple, l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, il a été construit sur une seule exploitation agricole, sur plusieurs communes, mais sur une seule exploitation agricole. C'est des exemples de grandes structures qui ont à voir avec les projets qui peuvent atterrir dessus dans les années 60-70. Et donc c'est toujours un champ de banlieue, et il y a toujours des activités. Donc il y a eu jusqu'en 2019 sur le grand champ des activités, mais il y a aussi ce qu'on appelle les jardins biologiques d'Aurore, qui est un jardin d'insertion. Population qui veulent, avec l'idée de les aider à s'insérer dans le monde du travail, pas pour avoir une activité agricole, parce qu'en Ile-de-France, les débouchés sont quand même pas gigantesques dans l'activité agricole, mais par le soin des plantes, par le travail. Donc on a mené des ateliers, notamment, donc on a visité, ici on a Lamry Guénouche qui dirige ces jardins biologiques d'Aurore, qui est agronome et qui nous a parlé un petit peu de son métier, à la fois avec les plantes et avec les gens. Et on a fait venir enquêter avec nous un anthropologue qui s'appelle Dusan Kazik, qui est un anthropologue spécialiste de la relation avec les plantes, et justement aussi de comment c'est dans le rapport au vivant, dans le rapport avec ces plantes, que se créent des choses. Et c'est aussi ça finalement qui donne du sens à ce lieu, avec un peu de réflexion sur qu'est-ce que représente ce lieu pour les gens. C'est pas parce que les gens ne parlent pas forcément d'un lieu qu'il n'y a pas pourtant un attachement qui se crée. Donc c'est aussi ça, l'attachement à le fait d'avoir un champ à côté de soi. Alors, pas forcément des pesticides, évidemment, ça fait des nuisances aussi, mais le fait d'avoir un horizon ouvert. C'est pas qu'une dimension, on va revenir juste après sur une dimension écologique, mais il y a aussi quelque chose de cet attachement à la production, à l'agricole, aux autres êtres qui peuplent des potagers, qui soient la faune, la flore. Est-ce que ça permet de tissus aussi vivants entre habitants. Donc il y a à la fois le jardin, il y a aussi des jardins partagés pour les habitants de la cité qui est juste à côté, pour des raisons de déduction fiscale pour les bailleurs, ils ont intérêt à faire ce genre de choses. Et donc, du coup, voilà, on voit là des co-enquêteurs, Jean-Luc, Claudine notamment, c'est Aïcha aussi, qui ont co-enquêté avec nous et qui habitent là et qui aimerait bien pouvoir conserver un petit peu, et ces espaces sont complètement annihilés dans les nouveaux projets, ou alors repensés, mais il y a l'idée que comme si on pouvait déplacer la terre, comme si il y aurait des années blanches pour la production, et voilà, c'est un peu... Et donc ça amène à penser à ce rapport aux différents êtres qui peuplent cette plaine, et donc c'est sous la dimension agricole, mais c'est aussi évidemment sur une dimension plus écologique, et donc penser cette fois-ci la plaine comme une friche.
Peut-être on peut revenir sur une carte de Sevran. C'est donc effectivement on a fait donc cet atelier au jardin biologique d'Aurore, et après on a fait donc aussi une lecture de paysage de ce champ avec une géographe pour se situer aussi par rapport à l'Île-de-France. Et bon, ça on le savait un peu depuis le début, parce que je vous l'ai dit aussi en introduction, que dans le projet d'aménagement avec la piscine et vague de surf, comprenez aussi ce qu'on appelle un corridor écologique. Donc c'est aussi appelé parfois un couloir écologique, c'est l'idée d'un chemin entre deux poches ou réservoirs de biodiversité. C'est un peu comment les espèces circulent. Après, bien sûr, les papillons ne circulent pas comme les mulots, ni les biches, etc. Mais il y a quand même il faut qu'il y ait suffisamment d'espaces verts les uns après les autres, avec aussi des cours d'eau, etc., pour permettre aussi aux espèces et donc à la biodiversité de se régénérer et de se déplacer. Mais donc, cette carte, elle ne montre pas les deux parcs. Non, on a une... Ouais, là, bon, pas tout à fait, mais bon, c'est pas très grave, je vous ce sera là à peu près. Et donc ça, c'est notre plaine Monceleux. Et donc ici, on a le parc de la Poudrerie, qui est un grand parc, hein, qui fait, je crois, 140 hectares. Et au nord-ouest, en fait, on a le parc du Saussé, qui est encore plus grand. Là, c'est plus de 200, je crois que c'est 230 ou 220 hectares. Et donc, bah, effectivement, la plaine Monceleux se situe vraiment entre ces deux parcs très importants qui forcément abritent une certaine biodiversité. En plus, on a le canal de l'Ourcq, hein, qui traverse le parc de la Poudrerie. Donc ça fait encore aussi d'autres types d'oiseaux, notamment, qui peuvent être présents. Et donc, ben voilà, nous, quand on est allé sur la plaine Monceleux, il y a notamment un petit endroit qu'on peut voir aussi sur la vue satellitaire, qu'on a appelé en fait assez rapidement l'oasis, parce qu'en fait, l'oasis, ça paraît peut-être un peu étonnant, mais c'est vrai que par rapport à cette terre brune un peu sèche en jachère, on avait un petit endroit quand même qui commençait à être arboré, qui nous paraissait presque luxuriant en fait, aussi au fur et à mesure, à force de passer du temps aussi sur ces 32 hectares. Et donc, en fait, on s'est mis un peu en tête de s'intéresser, de faire des exercices un peu d'attention, d'observation, avec notamment un designer qui s'appelle Benoît Verget, où on a fait des exercices d'écoute. Ensuite, on a travaillé avec une écologue une écologue également pour repérer un peu les différentes essences et plantes qui composent ce petit endroit dénommé l'oasis. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on y trouve en fait la végétation vraiment typique des friches de la petite couronne parisienne, avec les différents stades un peu de végétation, les différentes plantes qui peuvent être présentes, des espèces ruderales. Donc voilà, on a fait un herbier dont on présente des extraits dans l'ouvrage. On a aussi fait un exercice avec un ornithologue qui habite Sevran et qui avait contribué au Grand Atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris avec la LPO. Et donc là, on a aussi produit d'abord, en fait, au cours de nos ateliers, un relevé cartographique des différents oiseaux qu'on a pu à la fois identifier à l'oreille et aussi par la vue. Donc bien sûr, ça n'a pas une très grande valeur en soi, parce que c'est sur un moment vraiment donné. Mais on a pu, à partir de ça, avec cet ornithologue aussi, travailler avec notamment l'atelier de cartographie de Sciences Po, qui a réalisé plusieurs cartes originales sur Sevran qui sont présentées dans le livre. Et notamment, en fait, une manière de se dire, en fait, cette plaine Monceleux, qu'on peut aussi considérer comme une friche, hein, c'est un champ en jachère, c'est un espace urbain en attente de quelque chose d'autre, dont on retrouve une certaine végétation, biodiversité. Et c'est un endroit, en fait, on a voulu un peu penser la géographie, en fait, de ce territoire par rapport au déplacement des oiseaux, en se disant que pouvaient y passer des oiseaux qui font juste des petits... des petits déplacements entre la Poudrerie et le Saussé, mais certains oiseaux migrateurs qui vont aller comme l'Hippolaïs polyglotte qui va aller en Afrique de l'Ouest selon les saisons, le faucon obro qui va aller en Afrique du Nord, et donc de montrer un peu la géographie de cette plaine Monceleux, avec aussi les pigeons qui peuvent aussi retourner dans Paris et revenir à Sevran, avec différents endroits à la fois de nidification, d'alimentation aussi, et ça redessinait en fait une autre géographie aussi de la plaine Monceleux, et ça pouvait encore ouvrir un petit peu cet endroit. Et on peut peut-être montrer le dessin de Sarah qui essaie de reproduire un peu aussi ces exercices d'écoute qu'on avait pu faire avec Benoît. Et donc c'est vrai que c'était un peu des exercices d'attention, d'essayer d'embrasser tout l'espace sonore en une fois, ce qui est quasi impossible, au contraire d'essayer de déceler toutes les choses qu'on peut entendre. Et là, bien sûr, on entend à la fois les avions de Roissy, les bruits d'une ville, mais en fait il y a tout le bruissement aussi des insectes, des petits animaux, des oiseaux en fait, qui peuvent peupler aussi de très nombreuses friches de la petite couronne parisienne. Et ce qui est intéressant aussi, une nouvelle fois, là, parce qu'il y a toujours ce geste un peu de catégoriser, de comment on représente cet endroit qui traverse le livre, mais c'est que cette espèce n'est jamais répertoriée comme une friche par les différents inventaires ou cartes de friches. Bon, il y a différents outils qui existent, hein, carto-friche notamment, il y a aussi l'observatoire des friches franciliennes. Enfin voilà, il y a plusieurs, carto-friche, c'est Cérema. Observatoire des friches franciliennes, c'est l'Institut Paris Région. Mais c'est aussi voilà, des enjeux qui peuvent être intéressants parce que les friches peuvent aussi attirer des convoitises aussi d'aménageurs. Donc il y a aussi des réflexions de la part de personnes qui veulent, qui mettent ou qui identifient des endroits comme friches, de faire un petit peu attention parce que ça veut dire attention, c'est aussi encore une page en suspens, une page à pouvoir écrire pour la suite de la ville. Et donc après, voilà, et le sixième et dernier chapitre, c'est la question d'aborder en fait cet endroit comme un commun à habiter. Là, peut-être, toi, tu veux en parler un petit peu.
La controverse, si on parle.
Comment ?
La controverse avec Dossard.
Ouais, on peut parler, ça, quand même. Non, en trop. Ouais, tu veux revenir ? Je pense que ça va. Ouais. Mais après, c'était l'idée aussi de voir cet endroit, enfin, à la fois ce territoire et aussi l'enquête qu'on a menée durant 2 ans, donc avec un groupe de personnes à géographie variable, qui a fait en fait qu'on... Enfin, nous, déjà, on s'est attachés de plus en plus à ce lieu qui vraiment ressemblait à un territoire sans qualité, vraiment très ordinaire, et qu'on y a vu de plus en plus jusqu'à cette oasis, en fait, dans laquelle on pouvait percevoir énormément de biodiversité. Donc, il y a tout ce mouvement, en tout cas, d'attachement par l'observation, par le travail, par le fait de revenir régulièrement, de l'étudier de différentes manières, à différentes saisons. Et il y a aussi cette idée qu'en travaillant sur cet espace, ça a fait aussi que les habitants et les habitantes ont été aussi concernés de plus en plus aussi par l'avenir, le devenir de leur ville. Et c'était quelque chose qui avait bien sûr été déclenché par la concertation citoyenne dont je vous ai parlé un peu en introduction et qui a abandonné ce projet de piscine à vagues de surf. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que c'était ce territoire, on pouvait aussi le voir aussi comme un commun à habiter, et que ce projet d'aménagement qui d'habitude est imposé par le haut et va vraiment avoir lieu, le fait qu'il soit abandonné, ça a enclenché en tout cas un processus politique, citoyen, qui nous semblait assez intéressant de pouvoir décrire, et c'est un peu l'objet de ce dernier chapitre.
Oui, c'est en ça qu'on... Bon, dans ce dernier chapitre, on revient un peu sur notre démarche, enfin, très modestement, mais qu'on essaie de placer comme finalement une forme d'action, peut-être d'action démocratique possible, à ajouter au répertoire des formes existantes pour des cités de l'aménagement de lieux tels que la plaine Monceleux, qui est donc une forme d'action qui ne cherche pas à faire un travail d'expertise, qui ne cherche pas à trianguler de manière exhaustive toutes les propriétés d'un espace, ni non plus d'ailleurs à s'ancrer tout de suite dans une démarche de projection, à demander par exemple aux habitants qu'est-ce qu'ils veulent en faire, et à du coup placer la recherche à l'endroit de l'étude d'impact ou de l'étude des effets d'une projection, mais au contraire, en fait, à fabriquer du commun en faisant un travail de description qui est très modeste, mais qui permet quand même d'épaissir un petit peu la manière dont on va parler d'un lieu et dont on va parler ensuite de son devenir. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place cette démarche qui a déjà été mentionnée avant, qui est une démarche du coup qui vise à situer plein de regards scientifiques dans des moyens, des instruments, des outils, des méthodes d'observation différents, et à les faire dialoguer quand même avec des formes de savoir tacites qui appartiennent aux habitantes et aux habitants qui étaient dans l'enquête. Et à produire, enfin, ce qu'on a. Alors, c'est quelque chose qu'on n'a pas mis dans le livre, mais qu'on a un petit peu plus vu quand on a présenté l'ouvrage, notamment dans les cercles sevranais, disons, à produire une forme de responsabilité chez les personnes qui avaient été impliquées dans l'enquête. Qui était une responsabilité qui n'impliquait pas nécessairement un accord des différents points de vue sur ce que devrait devenir cet espace dans notre collectif. Il y avait des personnes qui pensaient qu'il fallait y faire un parc, d'autres qui pensaient qu'il fallait construire, d'autres qui pensaient qu'il fallait le laisser tel qu'il était et surtout pas y toucher. Donc les personnes n'étaient pas forcément... et ce n'était pas l'objectif de la démarche de les accorder sur un avenir donné, mais par contre, elles étaient en mesure d'avoir une série d'attachements qu'elles n'avaient pas en amont de l'enquête. C'est une des personnes, Gisèle, je crois, qui disait « je me sens responsable de ce lieu maintenant ». Et bon, alors c'est une forme d'action qui, bien sûr, ne va pas du tout qui ne va pas du tout remplacer des formes de mobilisation ou de participation à des formes d'action politique plus traditionnelles, mais qui nous semble intéressante à faire valoir dans ce type de démarche. Et voilà.
Peut-être que du coup, justement, une des façons de le mettre en place, c'était que de le faire sous une forme qui puisse être saisie. Et donc, à la fois, il y avait, pour nous, c'était important que ce soit une forme graphique aussi. Nous, tout le travail avec Sarah pour faire ce que je trouve être un beau livre, avec de magnifiques... voilà, que ça soit bien pensé ensemble, donc on peut peut-être les faire circuler aussi. Et dans l'idée que ce soit déployé aussi pour les habitants de Sevran, bon, on a essayé évidemment de faire en sorte que ce livre se trouve dans les bibliothèques de Sevran et que les habitants et les habitantes puissent soit l'acheter, soit aller en bibliothèque le lire, mais on voulait aussi que ce soit accessible sous une autre forme, et donc du coup c'est l'objet de la publication en ligne. Puisque l'ouvrage est aussi intégralement accessible avec tous les contenus, du coup, sous la forme... je vais dire des bêtises, parce que je me demande sur la forme d'un site web, mais après, je vous laisse expliciter un peu plus.
Mais après, comme on a déjà peut-être été un peu long, peut-être on fait un peu circuler. Enfin, je ne sais pas si ça vous intéresse qu'on revienne un peu sur la manière de travailler, comme on a fait le livre avec les co-enquêteurs, et pourquoi est-ce qu'il y a un site web ou pas, ou est-ce que vous avez aussi des réactions pour pas qu'on... monopolise non plus trop la parole, ça peut être bien de...
Oui. Alors s'il y a des réactions, je vais faire passer le micro. Et peut-être on peut prendre quelques réactions à chaud, parce qu'il y a quand même déjà beaucoup de matière.
Ouais.
Et en fait, je pense qu'il y a sûrement déjà pas mal de questions. Moi, j'en ai une, pour le coup, mais j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui ont des questions, et peut-être aussi des réactions sur le chat. On verra peut-être... Et puis après, peut-être qu'on peut aussi déplier un petit peu qu'est-ce que c'est l'objet en ligne, parce que c'est intéressant aussi de savoir comment est-ce que ça se traduit.
Ouais.
Voilà, mais moi, j'avais une question. Ça va si je commence la première question ? C'est OK. Hein. Après, je fais passer le micro. Hein. C'est un peu parce que je l'avais dans la main. Non, j'ai une question qui me passait par la tête au moment où il y avait cette succession de projets qui n'arrivent pas à fonctionner, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a donc toute la liste là, de ces différents projets, jusqu'à cette fameuse piscine à vagues de surf qui est quand même effectivement aujourd'hui assez aberrant. Et donc la question que je me posais, c'est quelles leçons on tire en fait de ça ? Qu'est-ce qu'on arrive à comprendre en fait de ce type d'échec en fait ? Et donc déjà, est-ce qu'il y a des lignes transversales qui permettent de dire, en fait, c'est finalement cette terre qui n'est pas du tout une terre d'avenir et en fait qui n'arrive pas finalement à faire naître ses projets, ou est-ce qu'il y a un décalage complet dans les façons de planifier? Et donc voilà, un peu pour essayer de comprendre pourquoi ça n'arrive pas à s'implanter d'une certaine manière, même si par exemple le projet comme la piscine à vagues, d'une certaine manière aujourd'hui il y a un vrai décalage, on comprend, enfin je pense que c'est assez évident qu'il y a cette compréhension de ce décalage, et qui met peut-être en lumière les décalages précédents, enfin voilà, donc c'est ça que j'aimerais bien un peu ouvrir un peu.
Je pense qu'il y a deux petites façons de répondre très rapidement. La première façon, c'est de se dire que déjà, on n'apprend rien parce que précisément, on ne fait pas cette liste. Enfin, on fait comme si c'était un vide, mais un vide, ça n'a pas d'histoire non plus. C'était juste un champ, il n'y a juste rien. Et juste, du coup, super, on peut faire un projet sans même se rappeler que, en fait, il y avait déjà eu des projets. Les gens ne parlent pas de ces projets. Quand on regarde on était obligé de lire des documents que d'habitude les gens ne lisent pas, mais des centaines de pages de la Société du Grand Paris, toutes les études. En fait, ils reviennent jamais sur le fait qu'il y avait eu des projets avant, parce que comme c'est pas là, c'est pas quelque chose qu'on doit étudier. Donc il y a pas tellement de leçons qui sont tirées, justement parce qu'on ne fait pas cette histoire. Et ça me semble intéressant de rappeler que si, ça a les traces. Ensuite, sur pourquoi ça ne prend pas, je pense que ce qui est intéressant, c'est que, essayer de travailler un peu, beaucoup de ces projets sont en fait un peu liés. C'est-à-dire que c'est quand même lié sur l'idée de cette histoire de la métropole de Paris, avec la densification, avec le fait ça s'est fait le long de certains axes. Hein. Donc là, tu as raison de parler du canal de l'Ourcq, et puis après de la voie de chemin de fer, parce que c'est pour ça qu'on est allé jusqu'à Sevran, c'était le long de ces axes-là. Et donc, le long de ces axes, au fur et à mesure, quand le centre a été complètement rempli, on a commencé à avoir des projets là aussi avec les zones à planifier. Mais quand on a des grands ensembles, du coup, pour que ce soit intéressant pour les gens qui y habitent, il faut qu'ils puissent circuler facilement. Et donc, l'autoroute est en fait liée aux grands ensembles. Et l'autoroute ne se faisant pas, pour des raisons de planification, aussi des raisons de vie dans le coin et du parc de la Poudrerie qui était juste à côté quand même, du coup, ça déprécie la valeur des immeubles qui ont été construits, parce que du coup, les gens ne peuvent pas facilement aller travailler à Paris en voiture, On n'a pas encore le RERB de notre branche du RERB n'a pas été encore construite, celle qui allait vers Charles de Gaulle. Donc en fait, tout ça c'est lié, ce qui fait que les promoteurs immobiliers ne gagnent pas suffisamment d'argent par rapport à ce qu'ils avaient planifié. Ça se remplit très vite, mais pas assez vite pour eux. Et donc du coup, bah, ces immeubles, ils les laissent un peu décrépir. Du coup, ça fait que bah, les populations qui sont obligées d'y aller, c'est des populations immigrées, avec moins de pouvoir d'achat. Enfin, c'est assez intéressant de voir que justement, c'est le fait de pas avoir, enfin, que ces projets ne sont pas pensés ensemble. Et on les voit indépendamment, sans penser un tout. Et finalement, c'est assez lié. Alors, je ne veux pas me faire un chantre du tout de la planification, parce que je ne pense pas non plus que ce soit forcément la solution. Mais clairement, on retrouve maintenant dans le fait d'avoir un promoteur immobilier qui a son idée, sans penser l'ensemble, sans penser le tout, sans penser les interconnexions. Je pense que c'est ça qui explique finalement l'échec de ces projets, et en cascade, quoi, en quelque sorte. Voilà.
Une autre petite question, François, si vous voulez réagir aussi par rapport.
Là, il y a peut-être aussi eu le changement de propriétaire, en fait, que le fait que ce soit l'État qui achète ce bout de territoire pour faire l'autoroute, qui ensuite donc, n'a pas eu lieu, ça a fait que bah, c'était loin aussi des concernements aussi locaux, en fait, de la vie locale, municipale. La mairie n'avait pas du tout la main sur ce morceau de territoire. Et en même temps, souvent, on était peut-être aussi un peu loin des priorités de l'État. Je pense qu'il y a quand même le fait que le propriétaire soit si gros, en fait. Enfin, cette si grosse entité qu'est l'État, ça a joué aussi sur une certaine attente. Et c'est pour ça qu'après, c'était aussi peut-être toujours des projets un peu trop gros, en fait, par rapport à souvent le Clairefontaine de banlieue, une piscine avec deux sœurs pour faire un marketing territorial. Enfin, limite, en plus, à l'époque, c'était pour accueillir les épreuves de surf des Jeux Olympiques de Paris. En fait, c'était vendu un peu comme ça, même si la Fédération française de surf n'avait jamais vraiment approuvé cette idée ou officialiser cette idée, mais voilà, avec toujours des idées un peu très fortes en termes de marketing, mais qui voilà, conviennent pas très bien non plus à la réalité du territoire sevrannais, quoi.
Et c'est des terres biologiques ou non, pas du tout.
Alors je veux pas être le seul.
C'est toi l'agriculture.
Oui, c'est bon, c'était un peu réparti du chapitre, mais sur 2 hectares. Il y a les jardins biologiques donc de l'association d'Aurore. Donc il y a une partie qui sont des terres cultivées de façon biologique, mais c'est une toute petite partie qui n'est pas sur la partie qui appartient à l'État d'ailleurs, qui appartient à un bailleur, le GIREP. Enfin voilà, ça se fait là. La ville n'a jamais pu racheter ces terres. La ville était intéressée par racheter ces terres, mais l'État les a conservées jusqu'à les vendre à la Société du Grand Paris. Donc il y a eu c'est quand même aussi une mainmise, une emprise sur le territoire, et le fait que la mairie n'avait pas n'avait pas les mains libres pour décider de ce que deviendrait cet espace. Par contre non, le grand champ c'était cultivé de façon non biologique, hein, et on en trouve des traces aussi. Je pense qu'il y a quelque chose notamment sur le type d'espèces végétales qu'on peut retrouver en ornithologie aussi. Notre collègue Doreen Omarov. Doreen Omarov qui est vraiment le spécialiste de ce coin de l'Île-de-France, enfin de ce petit coin de l'Île-de-France en ornithologie, explique là maintenant on entend revenir l'alouette des champs, mais elle n'était pas là pendant des décennies, et elle est revenue juste à ce maintenant que les pesticides ont été arrêtés. Voilà.
Des maires, moi je pense à une commune à côté de chez mes parents, à Lomo, pas trop loin de La Rochelle, du coup qui a voulu convertir toutes les clairs en biologie, mais c'est 40 ans de pesticides et c'était strictement impossible, quoi. C'est là où c'est le bas blesse, quoi.
Il y avait des arrêtés préfectoraux à Sevran pour essayer de les interdire, mais on ne peut pas l'interdire sur un champ agricole.
Donc là, ça, c'était pas, ouais, c'est dans ça, les jardins, c'est les jardins municipaux, des choses comme ça, en fait.
Voilà, maintenant, c'est un peu généralisé, mais et il se trouve, ça c'est intéressant quand même, qu'on est dans un projet où c'est un maire écologiste, là, mais son prédécesseur était aussi un maire écologiste. Et donc, en fait, son prédécesseur avait... Celui qui a lancé le projet de piscine avec le surf, c'était la même équipe municipale qui continuait. C'est juste que ce maire-là a démissionné, et c'est son successeur qui l'a pris. Mais donc, c'est pas si simple que ça. Il ne suffit pas de coller des étiquettes politiques pour arriver à dire...
Voilà,
c'était pas si simple que ça.
Alors, je fais passer le micro, il y a une question.
Du coup, je me demandais pourquoi vous le rendez aussi accessible du coup par internet. Du coup, c'est, enfin, ça devient gratuit. Du coup, ça. Enfin, je dis pas que le livre, je l'ai feuilleté, il est très beau et c'est très visuel. J'aime beaucoup la manière dont est construit le livre. Mais du coup, le fait de le publier sur internet fait que. Je pense que beaucoup moins de personnes vont l'acheter physiquement.
C'est une question pour l'éditrice, du coup.
Bon, en tout cas, s'il est s'il prend la forme d'un site web également, c'est parce que le graphisme a été réalisé avec du code. Et donc ça, c'est c'est Sarah Garcin qui travaille beaucoup comme ça. Enfin, elle fait partie de collectif et d'un groupe un peu de graphistes, designers, développeurs qui essayent de aussi utiliser des outils libres dans leur travail, qui veulent donc s'affranchir notamment d'InDesign, ne pas que tout graphisme et que faire un livre passe forcément par la suite Adobe. Et en fait, une des solutions s'appelle le Web to Print ou l'HTML to Print. Et donc, c'est d'utiliser notamment les feuilles, enfin, l'HTML, les feuilles de style sur Internet pour pouvoir mettre en forme, en tout cas, ce qui ressemble dans un premier temps, enfin, à des pages web, un site Internet, et qui ensuite va pouvoir être paginé grâce à un logiciel qui s'appelle Page.js pour être généré en PDF et devenir un livre. Et donc, ça permet, voilà, ça a été tout le processus graphique qui a été fait de cette manière. Pour nous, ça a été aussi très commode, même pratique, parce qu'on a décidé aussi d'être trois à co-écrire le livre et de ne pas faire porter cette charge en fait, aussi à nos co-enquêteuristes, habitants et habitantes de Sevran, parce qu'écrire, ça prend du temps, c'est aussi une certaine technique. Mais ce qu'on a fait pour respecter aussi l'aspect collectif de tout ce travail d'enquête, c'est qu'on a fait ce qu'on a appelé un comité de lecture habitante. C'est-à-dire qu'après la session d'atelier, durant toute l'écriture du livre, donc que nous prenions en charge tous les trois, qu'on déposait aussi les contenus au fur et à mesure sur la plateforme en ligne développée par Sarah Garcin. Et en fait, on envoyait nos textes au fur et à mesure aussi à notre comité de lecture habitante, qui étaient des personnes qui avaient participé aussi à l'enquête. Et donc, on s'est vu 6-7 fois comme ça. L'avantage aussi, donc voilà, ça a permis d'ouvrir l'aspect collaboratif en fait du processus éditorial, d'utiliser en fait des technologies libres. Ça permet aussi, grâce à cette plateforme, de pouvoir visualiser pratiquement en temps réel, une fois que Sarah a aussi mis en place les différentes feuilles de style, ce à quoi va pouvoir ressembler l'ouvrage. Donc ça nous a permis de tâtonner à partir de certaines images, le texte, etc., et de pouvoir montrer ça aussi aux habitants, habitantes de Sevran, à notre comité de lecture habitante. Donc ça a donné une matérialité aussi tout de suite pour pouvoir aussi se positionner aussi, pour que tout le monde puisse se retrouver dans cette aventure qui avait été collective, mais qu'on n'a pas forcément la même manière d'appréhender en fait a posteriori. Donc ça, c'était quelque chose d'intéressant. Et donc c'est pour ça que. Et après, voilà, l'ouvrage, en fait, on l'a sorti en librairie en novembre 2023, et là, c'est un an après qu'on vient de publier le site web. Et après, par expérience, parce que c'est ma maison d'édition, 369 Éditions, qui a publié cet ouvrage, on a aussi une petite collection, par exemple, de manuels, qui est sous licence Creative Commons, et on met aussi les PDF en libre téléchargement environ une année après leur sortie en librairie. Mais en fait, ça va pas empêcher en fait des ventes, parce que un PDF et un livre qui en plus là est avec des dessins, effectivement, on peut bien l'ouvrir parce qu'on a une reliure au tabagne pour pouvoir voir les cartes, les dessins de Sarah. Alors, enfin, disons qu'il y a de l'espace aussi, parce que c'est un livre pour pouvoir prendre le temps de la noter, etc. Ben, c'est pas la même chose que sur un PDF, en fait, à l'écran. Et en même temps, après, il n'est pas très cher. Hein, il a 17 euros pour le format. C'est quand même assez peu cher par rapport en librairie. Mais l'idée, c'est aussi de pouvoir se dire que le prix ne doit pas non plus être un obstacle pour faire circuler aussi cette histoire, parce que nous, on a été aussi financés par la Fondation Carasso pour le mener. On l'a fait avec d'autres personnes. On veut pouvoir faire connaître aussi et que ça fasse, ou ça crée une forme d'archive aussi pour Sevran. Et après, bon, voilà, c'est difficile à dire, hein, mais enfin, je pense sincèrement que ça, le fait de pouvoir rendre aussi, de toute façon, après les PDF, les EPUB, ils se trouvent quand même très facilement en ligne sur différentes bases de données. Et après, je pense pas que, en fait, l'édition indépendante se porte quand même, enfin, si c'est pas évident, il y a quand même énormément de livres qui sortent très régulièrement, et donc le web n'est pas un concurrent qui vient détruire le livre, et il y a une cohabitation qui est possible, et là donc nous ça nous plaît un peu de pouvoir justement avoir les deux, d'avoir le site internet qui peut aussi être un support dans des cours, etc., et le livre qui est aussi un bel objet qui a été conçu avec Sarah et qui peut être dans des bibliothèques, ça peut être aussi deux objets de visées un petit peu différentes, quoi.
Et puis par ailleurs, c'était congruent un petit peu avec la nature un peu hybride de l'ouvrage qui est adressé à deux publics, des personnes qui sont directement concernées, enfin impliquées, qui se préoccupent, directement préoccupées par cet espace et par la ville de Sevran, et puis des publics un petit peu plus larges, par exemple des pères universitaires, mais pas que. Et qui du coup vont être sensibilisés à l'enquête de manière différente. Il y a des personnes à Sevran qui, alors on n'a pas dit je crois, mais initialement on n'avait pas écrit qu'on allait écrire un livre au début du projet.
Oui, c'était pas prévu.
Et on s'est rendu compte qu'en fait, donc pour rendre cette enquête active dans le territoire dont elle est l'objet. Le fait de passer par un livre, c'était le bon médium pour avoir des résultats qui circulent, qui passent dans les mains des différents acteurs politiques de la région, des habitants et habitantes aussi, avec qui on a travaillé.
Et dans les médiathèques aussi de Sevran, bibliothèque.
Ouais, de la médiathèque de Sevran, qui, pour une part, ne l'aurait jamais lu si ça avait été un site web.
On ne veut surtout pas réduire les habitants de Sevran à ça, mais il ne faut pas non plus occulter le fait que le quartier juste à côté, c'est un quartier prioritaire de la ville, où il y a 40% de taux de pauvreté. Et donc, il y a déjà des tas de facteurs qui font que ce n'est pas évident de se saisir des chercheurs qui viennent faire un livre, etc. Et tout. Bon, si le prix peut ne pas être un obstacle en plus, ou potentiellement ça peut être utile localement, c'est quand même aussi... Je pense que c'est une politique éditoriale que tu mènes sur plein d'autres ouvrages, donc du coup, et plein d'autres raisons. Là, il y avait quand même une raison supplémentaire aussi de se dire que des gens concernés, il faudrait quand même être sûr de ne pas rajouter des freins supplémentaires à partager ça.
Et Sarah, Garcin, qui est sur l'IRC de Pinaud et qui nous écoute, demande à ce qu'on précise que aussi c'est donc ce qu'on appelle le single source publishing, c'est-à-dire que c'est fait en single source publishing, c'est-à-dire qu'on a donc une seule source de contenu, la base de données manipulable dans un CMS en ligne, et qu'ensuite, grâce au langage du web, on peut sortir deux formats, un format PDF pour l'impression, un format pour le site web. Ça a été dit, mais voilà. Et donc, qui est le format web du site web, et qu'aussi, par souci de ne pas trop utiliser de la place sur un serveur, et de faire des sites légers, le site web de la publication est un site web statique, c'est-à-dire qu'il est composé seulement de fichiers HTML, CSS, images et textes, et non pas de framework, c'est-à-dire ou de fichiers de CMS qui sont lourds et qui demandent beaucoup de requêtes. Voilà, un site web statique, donc en page web fixe, plutôt que un site qui va aller faire des requêtes. Je ne sais pas si ça vous parle ou si c'est un peu trop technique.
On mange moins de place sur les serveurs et moins de bande passante.
Exactement.
Ouais. On pourrait se passer, il y a un petit compteur aussi pour calculer si ton site est écologique ou pas. Tu as une note entre A et F, on pourrait le passer. Je pense qu'il serait peut-être en A+.
Ah ouais, on pourrait mettre sur la mix. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez mystérieux dans cette aventure autour d'un terrain qui est un peu fantôme, quoi, inhabité. Et avec des points d'interrogation multiples. Donc voilà, je réagis juste, c'est pas une question, mais je me dis que ça pourrait aussi être une histoire à raconter à des enfants, et éventuellement sous forme de bande dessinée avec des personnages, etc., pour aussi toucher ce public-là, ces jeunes en fait, qui vont peut-être grandir, habiter longtemps, quoi, sur ce lieu. Donc, sais pas, c'est juste une réaction. Hein. Je me dis que ça serait super si ça pouvait être diffusé de façon amusante dans les écoles.
Ouais. Ce qu'on peut
On l'a pas dit, il faut dire que donc le livre et le site sont pas les premières formes de restitution de cette enquête, parce qu'à mi-chemin en fait du projet, on a collaboré une première fois avec une artiste sonore qui s'appelle Charlotte Imbeau et qui a réalisé donc une pièce sonore d'une quelques minutes qui s'appelait Contrevoix, enfin qui s'appelle Contrevoix, qui est en ligne et qui est une pièce sonore constituée avec des matériaux tirés des ateliers qu'on a fait avec les différents experts, expertes et habitants, et qui n'est pas une histoire comme je pense vous l'imaginez. Je pense que c'est une idée aussi très intéressante, mais qui était justement une manière d'adresser déjà cette question-là à d'autres personnes et d'autres publics.
Ouais. On est tout à fait d'accord, on a dû faire des choix, on n'avait pas forcément ça en tête, mais c'est une idée très bonne aussi. Avec ce petit supplément de mystère qui est le fait d'avoir... nous, aussi bien en recherche que d'un point de vue de la narration, c'est bizarre de faire une histoire sur rien. Enfin, sur un vide, sur 32 hectares de rien a priori, et de se dire, on va passer 2 ans à étudier un espace où il n'y a rien, où il n'y a pas... Enfin, sur le champ même, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de... c'est décrit comme un vide, c'est décrit... Donc, il faudra arriver à... On a dit ça aussi pour des enfants, mais voilà.
Quoi ? Les photos et tout.
Est-ce que, par exemple, il y aurait d'autres zones comme ça, en fait, en région parisienne, en Île-de-France, et même d'autres territoires en France? Et est-ce qu'il y aurait...
C'est ce dont je voulais parler.
Parce que du coup, on peut se demander s'il y a des éléments comparables qui pourraient être regroupés et peut-être permettre aussi de comprendre la façon dont les choses se passent.
Sur les éléments de discussion, peut-être Manuel pour...
Oui, pour moi, ça m'évoque la friche Saint-Sauveur à Lille, à côté de la gare Saint-Sauveur. Certainement, vous connaissez la gare Saint-Sauveur, puisque vous êtes moderne. Mais juste à côté, il y a l'autre partie de la gare qui est laissée en friche et qui a été donc l'objet d'un projet immobilier de la métropole de Lille. Il s'agissait de construire une piscine, donc une piscine gigantesque, olympique, tout ce que vous voulez. Et il y a eu un collectif, alors évidemment aussi une piscine agrémentée d'un projet immobilier avec 2000 logements. Et donc c'est ça qui ressemble. Ce qui ne ressemble pas, c'est que c'était une friche, non pas un champ, c'est-à-dire en fait des anciennes terres ferroviaires, mais néanmoins dotées d'une biodiversité tout à fait intéressante, qui a été défendue par plusieurs collectifs locaux. Qu'on fait aussi des œuvres d'art. C'est intéressant, il y a l'art contemporain officiel du côté de la gare Saint-Sauveur, et puis, y compris d'ailleurs avec des expositions d'urbanistes qui vont faire la promotion de toutes sortes de trucs vertueux. Et de l'autre côté de la grille, il y a l'exemple, le contre-exemple, en fait, d'une friche qui est urbanisée par une métropole un petit peu contre les habitants locaux, un quartier très populaire à l'origine. Et puis aussi contre des collectifs qui ont un peu l'esprit ZAD, en fait, en l'occurrence. Et puis, effectivement, après des zones comme ça qui sont laissées en longue tergiversation, ça m'évoque des trucs qu'on trouve en Belgique, où il y a une tradition d'hésitation et de retour en arrière. Et oui, à Bruxelles, il y a encore des friches qu'il faut défendre. Et puis à Liège aussi, il y a des trucs intéressants à étudier.
Mais là, sinon, ce qu'on peut dire rapidement, c'est que ce projet, il n'a pas complètement une suite, mais notamment la géographe avec qui on a fait la lecture de paysage et l'écologue avec qui on a fait l'herbier. Toutes les deux travaillent beaucoup sur la question des friches. Et donc là, on participe à un projet européen où on a reçu un financement du programme Biodiversa pour commencer en janvier 2025 pour 3 ans. Et ça va être un projet où on va travailler avec des scientifiques, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs pour caractériser, caractériser et créer une typologie de friches en Belgique, en Suisse et en France. En France, ce sera autour de Ris-Orangis. L'idée, c'est d'avoir une douzaine de sites dans chacun des pays, à Mons, à Fribourg et à Ris-Orangis, avec donc des endroits qui sont plus entre ville, début de la campagne, ancienne friche industrielle, enfin, qui ont toutes les trois leurs caractéristiques, mais de pouvoir les observer d'un point de vue à la fois écologique, scientifique, sociale et culturelle, pour faire valoir aussi la non-intervention comme un outil de l'aménagement urbain. Ça, ce sera un peu la visée ultime de ce projet, en fait, et notamment dans le contexte des politiques nationales de zéro artificialisation nette, même si là, elle est en train d'être un peu détricotée par le gouvernement Barnier, apparemment. Mais c'est aussi l'idée de... Enfin, zéro artificialisation nette, c'était l'idée de vraiment construire la ville sur la ville, et donc sur des endroits déjà un minimum anthropisés ou des sols déjà un peu artificiels, et donc en priorité sur les friches. Or, même si on a le béton dans les fissures, etc., il y a toute une végétation qui pousse, et en fait, c'est paradoxalement, même si le sol est déjà anthropisé, c'est des endroits qui sont assez riches en termes de biodiversité dans la ville, et qui peuvent aussi accueillir de nombreuses pratiques sociales, culturelles aussi, qui peuvent être importantes. Mais dans l'idée aussi de comment on a travaillé à cet endroit, là on va le faire de manière différente, mais en s'appuyant peut-être un peu là-dessus pour porter, et là en travaillant plus sur la question friche sur ces trois pays.
Petite question ?
Oui, oui. Bien sûr. Merci beaucoup, ça a été très très intéressant. Moi j'ai pensé cette projet à Berlin que vous connaissez probablement, Tempelhofer Freiheit. C'est vraiment, il y a des parallèles. Et je ne sais pas si vous, peut-être vous savez qui s'est passé maintenant, parce que j'ai suivi ce projet, mais je ne sais pas exactement ce qui se passe en ce moment. Je pense qu'il y a aussi des décisions un peu problématiques là, mais peut-être vous en savez plus. Mais j'ai aussi pensé de cette manière de travailler que vous avez utilisé, la cartographie de controverse, et comme ça, c'est aussi... maintenant, c'est difficile. Mais je pense que cette valeur qu'il y a dans des projets qui ne sont pas matérialisés ou réalisés, l'histoire, le savoir de ces projets-là, c'est vraiment... Il y a toute une histoire de ces projets. Par exemple, Milton Keynes en Angleterre, c'est aussi un endroit similaire où il y a des projets, il y a une histoire sur ces projets qui n'est pas réalisée, ne sont pas réalisés. Donc, merci beaucoup.
On espère arriver à penser ces cas effectivement un peu différents. C'est pas simple du tout. Je pense aussi qu'il y a plein de situations différentes. Vous avez cité l'aéroport de Tempelhof à Berlin, qui est l'ancien aéroport qui a été fait. Effectivement, on avait des projets de friches où il y avait déjà une infrastructure. Là, finalement, il n'y avait pas quelque chose d'industriel avant. On était juste sur un champ agricole. C'est peut-être plus proche d'Europa City, éventuellement, un autre type de mobilisation. Et je pense à la... Enfin, il y avait plein d'exemples, et sur Sevran même, j'avais juste cité l'exemple de la friche Kodak, où il y a aussi une histoire, du coup, qui a à voir avec d'autres projets, avec toute l'histoire des cancers pédiatriques à Vincennes liés aux usines Kodak, et par peur de reproduire ce genre de choses, la nécessité que Kodak voulait mettre l'argent pour être très clean à Sevran, et donc faire de la dépollution. Et c'est pour ça que là, il y a une friche qui est vraiment... c'est juste de la végétation, du coup. Il n'y a pas d'autre projet que la végétation pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème avec les habitants, qu'on essaie de... Donc, je trouve ça intéressant, enfin, effectivement, je ne saurais pas dire si c'est...
Ce sont des exemples divers, mais je pense qu'il y a aussi des spécificités différentes et qu'on ne peut pas réagir forcément de la même manière quand... Typiquement, je pense que ce qui nous a fait aussi réfléchir sur ce cas-là, c'était le... On y est tous allés avec une conscience environnementale très forte, mais il y avait aussi la dimension agricole. Et ce n'est clairement pas la même chose. Et donc, bon, des fois, ça s'oppose complètement, évidemment, mais même sans s'opposer, il y a quand même aussi le... Penser à une destination agricole ou penser à une destination environnementale. Là, finalement, les villes ont peut-être besoin des deux aussi. Et ça ne va pas toujours systématiquement dans la même direction. Et donc, ce n'est pas toujours simple à penser ensemble. Je ne suis pas sûr qu'on puisse, que ce soit parfaitement superposable de se dire de l'agriculture urbaine et un corridor écologique. On va arriver à trouver le mélange parfait qui va faire que ça fait les deux fonctions à la fois. Ce n'est pas si simple que ça, toujours, même si, évidemment, avoir des plantes biologiques, ça peut faire que du bien pour des espèces. Je ne vais pas dire l'inverse, mais... On sait très bien que bah, pour la biodiversité, il faut des haies, il faut... Enfin, il y a des tas d'autres choses qui ne sont pas toujours compatibles. Et donc, c'est... Enfin, je pense qu'effectivement, que ces comparaisons sont utiles, mais voilà, finalement, que c'est assez complexe et intéressant de multiplier ces études de cas situés. Et que finalement, là, on ne l'a fait que sur un territoire.
Question de clarification. Est-ce que tu connais des exemples de cohabitation harmonieuse excepté le maraîchage, qui est de toute façon classique dans ce genre de situation, mais pour des grandes cultures comme il y avait avant sur cette parcelle, est-ce que ça existe, des cohabitations harmonieuses entre l'urbain et l'agricole? Est-ce qu'il y a des exemples de cohabitation où on peut faire, par exemple, passer des machines agricoles dans une banlieue comme Sevran, etc.?
Alors là, ça va être mon inculture qui fait que je ne vais pas... Donc si d'autres personnes peuvent répondre, n'hésitez surtout pas. Mais moi, j'étais plutôt sur l'idée que ça l'a été dans le passé à Sevran. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment cette cohabitation où on a les témoignages et on a retrouvé dans les archives municipales de la ville tout le fait de dire, ah bah oui, bah, il y avait l'Euromarché qui a été créé. Donc les premiers grands supermarchés des années 70, il y en avait un là qui s'appelait l'Euromarché à côté des grands ensembles. Mais on préférait aller acheter et tous les matins, il y avait les œufs et les pommes de terre du fermier local. Qui était encore là. Donc c'était cette idée d'une vie rurale de banlieue, mais évidemment, c'est une question de densification. Il y a un moment donné où toutes les terres ont été remplacées par des projets immobiliers, où c'est parti. Mais finalement, il y avait cette cohabitation entre une agriculture, je ne peux pas la qualifier d'intensive, parce qu'on voyait encore des... On parle de tracteurs, mais on voyait aussi dans les images d'archives. Je ne sais pas si on l'a là, mais on a des images où on voit des socs et tirés par des chevaux à côté des immeubles des années 70. Voilà, c'est quand même un tracteur devant. Mais il y a quand même aussi encore des mélanges d'agricultures diverses. Mais voilà.
Oui, mais là, c'est des choses qui se sont éteintes. Si on se projette dans quelque chose de durable, est-ce qu'il y a des expériences comme ça d'imbrication entre, disons, des vraies cultures qui donnent à manger aux gens, hein, du genre du blé, quoi? Et de l'urbain.
C'est mon inculture, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas.
Quelle est la surface vous l'avez dit certainement, la surface, mais...
Là, c'est... Alors, 60 hectares, c'est toute la, enfin, c'est toute la zone.
55, c'est toute la ZAC, mais ça, c'est 32 hectares.
32
hectares.
Ce qui n'est pas gigantesque non plus.
C'est 27 plus 5 en plus.
C'est gigantesque, par exemple, si tu fais du maraîchage.
Beaucoup
de maraîchage là-dessus.
Mais vrai, traditionnellement, c'est plaine de France, Sevran, donc c'est pas trop maraîchage. Ça a plutôt été plaine céréalière aussi, dans les traditions aussi.
Il n'y a pas encore des moutons qui sont arrivés sur ce territoire.
On peut dire qu'un territoire vierge comme ça peut attirer la faune et la flore. Ça peut être vraiment un lieu très très riche pour d'exploration de ce que la planète produit toute seule.
Ah oui, tout à fait.
On a vu des renards.
Et il y a même, c'est marrant parce qu'à la fois ils reconnaissent pas du tout que c'est un champ agricole, parce que c'est quelque chose qui n'existe pas et qui a vocation à disparaître, mais en même temps ils doivent quand même se rendre compte que c'est toujours un champ. Et encore une fois, ça fait un millénaire qu'il y a une activité agricole sur ce champ, donc c'est fou de le nier. Quand même, de dire que ce n'est pas une zone agricole, parce que sinon ce ne serait pas forcément constructible. C'est cette dimension-là aussi. Et je pense que la SAFER a dit que oui, a mis en avant le fait qu'il y a un caractère non fonctionnel, parce que c'est en fermage pour des agriculteurs en Seine-et-Marne. Effectivement, que fait cet espace complètement déconnecté d'autres espaces? Peut-être qu'on peut imaginer d'autres types d'agriculture et que ce n'est pas parce que précisément on l'a laissé en jachère, qu'on ne peut pas imaginer d'autres, d'autres possibles là. Surtout que quand même, il y a eu des produits phytosanitaires qui ont été mis, mais il n'y a pas de pollution aux métaux lourds, de choses comme ça, comme on peut en trouver un peu plus au sud de la Seine-Saint-Denis. C'est pas comme à Montreuil où on sait que les terres sont, concrètement, les murs à pêche quand on y va à Montreuil, on sait que les produits ne sont pas vendables en tout cas, et ayant une pollution aux métaux lourds, là c'est pas le cas. Il y a eu des pesticides, mais il n'y a pas de pollution profonde.
Puis en plus, c'est en GHR depuis 2019, donc c'est-à-dire que les 3 années pour une potentielle reconversion biologique sont passées. Quoi.
C'était ma question.
Une petite lueur de positif, c'est que les 2 hectares qu'ont les jardins d'Aurore, je pense que dans les projets, donc il n'y aura plus de piscine à vagues de surf, mais il y a toujours des projets immobiliers. Il y avait l'idée de créer des dizaines de milliers de logements, parce que l'idée, c'est quand même, Sevran, c'est 50 000 habitants maintenant, et la projection d'ici 20-30 ans, c'était de passer à 70 000 à 80 000 habitants. C'est quand même encore une densification gigantesque. C'est ça qui est pensé, avec à la fois utiliser ce champ et en même temps d'autres immeubles, faire monter des tours à d'autres endroits. Donc là, ils ne pensent plus que... Alors, je ne me rappelle plus, c'est 8 000 personnes ou 8 000 logements.
Mais ils ont
c'est une grosse différence.
Ils ont baissé à moins de 3 000 logements.
On passe de 8 000 logements à 3 000 logements. C'était ça le nouveau projet, avec un corridor écologique et l'idée que l'agriculture urbaine, le jardin biologique, passe de 2 hectares à jusqu'à 8 hectares, je pense. Maintenant, ce n'est pas encore tout à fait fixé. Mais il y aura quand même un projet immobilier, sans doute, qui va... Alors, on ne veut pas encore une fois... Maintenant, on ne sait pas, parce que le champ est toujours comme ça pour l'instant. Mais il semble qu'il y ait une forme plus consensuelle de ce qui est quand même une densification urbaine, mais avec un corridor, avec un jardin biologique de 8 hectares.
Et la préservation, par ailleurs, d'un espace qu'on a mentionné très rapidement, le fameux oasis, qui en fait, dont on s'est rendu compte, c'est très paradoxal d'ailleurs, que c'était un technosol, qui était un terrain de sport, qui donc désaffecté, qui s'est retrouvé être la zone la plus intéressante en termes de biodiversité en fait du territoire. Et cet espace-là, dans le nouveau projet, est gardé intact. Ce qui est peut-être quand même un effet un peu concret de l'enquête, quand même, faut le dire.
Il y a une soupe qui est... Pardon.
Non, je me demandais, en fait, moi, je ne connais pas du tout l'histoire du canal de l'Ourcq. Et donc, je me disais, tiens, peut-être que pour cette région, ça peut avoir du sens aussi de voir comment, pourquoi il a été construit et comment il a été utilisé.
Il y a une histoire, j'ai hésité entre deux historiens, je vais citer ces deux historiens qui ont souvent travaillé ensemble, et donc du coup je ne sais plus lequel a écrit ça. Je sais que tu as cité Frédéric Graber et il y a Fabien Locher. Je sais qu'un des deux, je suis désolé, je n'ai plus la référence en tête, a écrit sur plein d'histoires différentes d'expliquer ce canal napoléonien, et donc l'histoire du canal de l'Ourcq. Manuel, tu avais l'air de savoir.
Non, c'était effectivement une question intéressante là, sur le métabolisme de ces régions qui a été en perpétuelle reconfiguration. Il n'y a pas de régime permanent. L'agriculture très ancienne, elle a aussi continuellement changé. Il faut peut-être imaginer le futur de ce territoire sur des formes radicalement nouvelles qui n'impliquent pas nécessairement 80 000 habitants, parce que ça ne me semble pas être la croissance démographique de la ville. Ça, c'est un projet planifié.
Ouais.
Il y a d'autres planifications, même officielles. Je ne sais pas si vous connaissez le groupe d'études Pirensen du bassin versant de la Seine, qui fait différents scénarios de l'évolution. Et il y en a un qui est absolument passionnant, qui consiste en fait à diminuer la taille de l'agglomération parisienne pour éloigner les gens et justement la rendre peut-être plus facile à nourrir, en particulier en cas de problèmes logistiques, climatiques, etc., etc. Selon ce scénario de mémoire, il faut enlever 4 millions de personnes à l'agglomération parisienne et les rediffuser vers Orléans, Amiens, etc.